La justice en France et dans les Alpes de Haute-Provence était le thème de la conférence donnée par Timothée de Montgolfier, président du tribunal judiciaire à Digne-les-Bains. C'est une conférence qui était organisée aux archives départementales à Digne-les-Bains, devant une salle comble. À noter que le président du tribunal judiciaire, Timothée de Montgolfier, a obtenu sa mutation pour la Meurthe-et-Moselle et quittera donc le département des Alpes de Haute-Provence en septembre 2026 pour la ville de Nancy. Le système judiciaire français est complexe et le public est en demande pour mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de la justice française dans les Alpes de Haute-Provence. Je reviens sur un point avant de vous faire écouter cette conférence. Le président du tribunal judiciaire est le coordinateur du tribunal judiciaire et représente l'ensemble des magistrats du siège. Selon le code de l'organisation judiciaire dans son article R212-3, le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. En accord avec le président du tribunal judiciaire, M. Timothée de Montgolfier, et en accord avec les archives, Fréquence Mistral vous propose de réentendre cette conférence donc, sur ces ondes. Je vous propose donc d'écouter Timothée de Montgolfier, une conférence qu'il a donnée en deux parties, la première sur la justice en France et la seconde sur la justice dans les Alpes de Haute-Provence.
Un sujet difficile déjà sur le plan technique. J'ai un peu réfléchi à comment est-ce que j'allais aborder cette conférence, puis j'ai réfléchi à la façon dont j'allais vous présenter les choses. Parce qu'on peut présenter la justice de mille et une manières. On peut la présenter sous un angle historique, on peut la présenter sous un angle sociologique, on peut la présenter sous un angle purement juridique. Alors je me suis dit, si on veut parler de droit, si on veut parler de justice, il faut aussi comprendre son fonctionnement. Donc, vous n'allez pas échapper à quelques notions juridiques quand même, parce que je vais d'abord vous expliquer le fonctionnement de la justice en France, ça va être ma première partie, comment est-ce que la justice en France fonctionne, et puis ensuite, je voudrais vous parler de la justice dans les Alpes de Haute-Provence. Et je voudrais surtout vous dire qui sont les juges qui sont ici, qui est-ce qui vous juge, et comment est-ce qu'on prend une décision de justice. Parce qu'une décision de justice, ça ne se prend pas comme ça, ça ne se trouve pas sous sa bonne à cheval. C'est quelque chose qui se réfléchit, qui se coordonne, on ne prend pas les décisions seules. Alors si on peut prendre parfois les décisions seules, on a besoin d'avoir d'autres personnes qui viennent nous éclairer, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est deux parties, un, justice en France, peut-être un peu plus théorique, pour que vous compreniez, et puis deux, justice dans les Alpes de Haute-Provence, peut-être un peu plus pratique, avec les hommes et les femmes, surtout les femmes, qui rendent la justice dans ce département. Très souvent, quand je suis à l'audience, surtout à l'audience correctionnelle, j'arrive à l'audience, donc je sonne, j'arrive, je déclare l'audience ouverte, et puis les prévenus arrivent. Les prévenus, c'est ceux qui sont renvoyés devant un tribunal correctionnel. Et qui me disent, bah tiens, vous n'avez pas de perruque. Puis il est où votre marteau? Et puis qui me disent, non, votre honneur, c'est pas vrai ce que vous me dites. J'ai dit, mais vous avez trop regardé de séries télévisées, monsieur ou madame. Hein, on a cette image de la justice française qui est complètement imprégnée de ce qu'on voit dans les films, dans les séries, etc., etc. Et donc on a l'impression qu'on peut faire objection, on a l'impression qu'on a des perruques et des marteaux, etc. Donc il y a une vraie méconnaissance du système juridique français. Donc je vais vous l'expliquer quand même en quelques mots. Déjà, sur l'organisation matérielle. En France, et ça a vraiment son importance, nous avons deux principaux ordres de juridiction. Il y en a un troisième et qui est un petit peu à part, je vous l'expliquerai après. Deux principaux ordres de juridiction. Le premier, c'est pas dans l'ordre de mérite ni quoi que ce soit, mais c'est le premier que je vais évacuer tout de suite parce que ça ne me concerne pas, c'est l'ordre administratif, la justice administrative. C'est une justice qui est gardienne des libertés fondamentales. C'est le juge qui va juger de la relation entre les particuliers et l'État, ou les collectivités territoriales, ou les établissements publics. Vous avez un litige avec un permis de construire, c'est le tribunal administratif. Vous avez un litige avec la CAF, c'est le tribunal administratif. Vous êtes un étranger en situation irrégulière sur le territoire français, on refuse de vous délivrer un titre de séjour, vous avez une obligation de quitter le territoire français, c'est le juge administratif. Ce juge administratif, il dépend de qui? Il dépend du ministère de l'Intérieur. Le grand principe dans cette justice administrative, c'est que l'État est son propre juge, et EST. Donc l'État se juge lui-même. Alors, je mets tout de suite un bémol dessus, ne pensez pas que ce n'est pas une justice qui ne soit pas indépendante. C'est une justice qui, petit à petit, s'est affranchie du pouvoir, et c'est une justice qui reste indépendante. Mais c'est vrai que les juges sont désignés par un concours spécial, qu'il y a une porosité dans les juges entre les hauts fonctionnaires de l'État et les juges au tribunal administratif et surtout au Conseil d'État. Mais globalement, c'est une justice déjà qui fonctionne bien. C'est une justice qui est surtout indépendante et les juges sont quand même globalement indépendants. L'organisation de ces juridictions-là, elle se fait en trois niveaux. Vous avez le tribunal administratif, vous avez un litige, vous allez voir le tribunal administratif. Vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous allez voir la cour administrative d'appel. Et vous n'êtes toujours pas d'accord avec cette décision, vous avez le Conseil d'État qui va juger plutôt en droit. Alors là, je vous fais la version simple des choses. Il y a des juristes dans la salle, on m'a déjà dit, des anciens avocats qui vont dire « oui, mais ce n'est pas toujours le cas ». Oui, je sais. En matière juridique, vous avez toujours un principe et 2557 exceptions. C'est le principe du droit, vous avez un principe qui est censé être intangible, mais vous avez des exceptions, des exceptions, des exceptions. Donc ce que je vous donne, c'est la solution un peu facile des choses pour que vous compreniez bien. Mais il est bien évident que ça peut parfois être un peu plus compliqué que ça. Mais c'est déjà si vous retenez cette organisation, tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État, les deux premières juges sur les faits, le troisième juge uniquement en droit, et que l'État se juge lui-même, et c'est un ordre juridictionnel qui est à part, eh bien, vous avez déjà tout compris. Ça, c'est le premier ordre juridictionnel en France. La deuxième, qui m'intéresse plus, et ce dont on va parler principalement aujourd'hui, c'est l'ordre judiciaire. Donc, tribunal administratif, tribunal judiciaire. Le juge judiciaire, le juge administratif, c'est le gardien des libertés fondamentales. La liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, etc. C'est le grand gardien, c'est lui qui fait les grands arrêts sur ces grandes libertés. Le juge judiciaire, c'est le gardien des libertés individuelles. C'est pour ça que c'est le juge qui va décider de mettre les gens en prison, par exemple. Ou de mettre quelqu'un sous tutelle. Ou qui va statuer en matière de personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement. C'est le gardien de la liberté et des libertés individuelles. C'est aussi le grand juge du droit de propriété, le juge judiciaire. Donc, le juge judiciaire, il va juger, l'ordre judiciaire va juger des relations entre les personnes. Des personnes qui soient des personnes physiques, vous et moi, ou des personnes morales, des sociétés, par exemple. Comme disait un grand professeur de droit, il disait « mais moi, j'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Une personne morale, c'est une abstraction, ça a une personnalité juridique, mais on ne peut pas aller déjeuner avec une personne morale. Vous ne déjeunez pas avec Total, vous déjeunez avec le président ou le directeur de Total. Enfin, je ne suis pas sûr que personne ne déjeune avec lui, mais c'est pour donner un exemple. Donc, il juge les relations entre des personnes et il assure aussi l'ordre public. Ça, c'est le rôle du procureur de la République, on va y revenir après. La justice judiciaire, elle dépend de qui ? Elle dépend d'un ministère, du ministère de la justice. Et, notez bien que c'est hyper important, elle dépend également, en tout cas pour les magistrats, d'un autre organe qui est indépendant du ministère de la justice, indépendant du tout pouvoir, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, qui lui est une entité indépendante, qui est constituée en majorité de non-magistrats, des gens qui ne sont pas des magistrats. On est les seuls en Europe à avoir un Conseil supérieur de la magistrature avec une majorité de non-magistrats. Donc quand on parle de corporatisme des juges, etc., non. Non. C'est des gens extérieurs qui vont juger les juges et qui vont prendre des décisions importantes sur le fonctionnement de la justice. La justice judiciaire, on a l'indépendance qui est chevillée au corps. Pourquoi ? Parce que dans un état de droit, vous avez, ça c'est Montesquieu qui nous l'a dit il y a quelques siècles, il a dit, pour qu'un état il fonctionne, un état moderne fonctionne, il faut trois pouvoirs. Un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Si vous confiez tous les pouvoirs à l'un ou à l'autre, vous tombez nécessairement en dictature. Vous donnez la totalité des pouvoirs au Parlement, ça fait quoi ? Ça fait la Convention, la Terreur, et ça donne des horreurs. Le pouvoir exécutif, c'est la même chose, ça vous donne des dictatures. Et vous donnez l'intégralité du pouvoir aux juges, et ben ça fait une dictature des juges. Hein ? On appelle le gouvernement des juges, qui n'est pas bon. Les trois pouvoirs se répondent les uns envers les autres. Ils se tempèrent les uns les autres pour éviter les excès. Certes, le suffrage universel est absolument essentiel dans notre société, absolument, vraiment, on ne peut pas le remettre en cause. C'est le peuple souverain qui décide, mais le peuple souverain ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Sinon, on tombe en dictature. Parce que du coup, il n'est pas exercé par les personnes, directement, par les citoyens directement, il est exercé par ses représentants, ça c'est à peu près normal. Mais ce que décide le peuple à un moment donné n'a pas, excusez-moi, dans une enceinte laïque, n'a pas valeur d'évangile. C'est pas l'absolu. La France a signé des conventions, elle doit se tenir à ces conventions, elle doit arbitrer entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, sinon on tombe en dictature. C'est pour ça qu'il a été décidé en France, comme dans l'immense majorité des pays du monde, pas dans tous, mais dans l'immense majorité des pays, que de confier le pouvoir judiciaire à des juges indépendants. Il y a certains systèmes juridiques qui prévoient l'élection des juges, notamment aux États-Unis, pas dans tous les États, mais dans certains États, il y a une élection des juges. Le peuple donne un mandat aux juges. Ça a ses avantages. Ça a aussi de gros inconvénients, parce que du coup, la justice n'est pas complètement indépendante, puisque le juge reçoit un mandat. Donc il doit aller dans le sens du mandat que le peuple lui a donné. Donc il n'y a plus d'indépendance. Donc on peut se poser la question d'une justice partiale. On ne va pas rentrer dans tous ces systèmes américains, etc., parce que, un, je n'y connais pas assez, et puis, deux, on aurait besoin de plusieurs heures de conférence. On va en rester là. Mais comprenez bien que, du coup, il y a cette indépendance qui est donnée aux juges, et cette indépendance, elle doit être conservée pour que les juges puissent donner une décision en toute indépendance, sans pression de qui que ce soit. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, y a des voies de recours, hein, mais on ne peut pas attaquer un juge comme ça. Sinon, c'est la fin de l'état de droit. Si on peut trop facilement révoquer un juge, si on peut trop facilement imposer, donner un mandat à un juge ou altérer son indépendance, eh ben, on met à mal l'état de droit et il n'y a plus de justice. Ça ne veut pas dire que les juges sont intouchables, on va y revenir après, loin de là. Il ne faut pas qu'ils le soient d'ailleurs. Il faut bien qu'ils puissent avoir une responsabilité, mais cette responsabilité, elle doit être encadrée. Voilà sur la justice judiciaire, donc, qui est jugée par des juges judiciaires, indépendants. Il y a un troisième ordre de juridiction en France, je passe très rapidement dessus parce que c'est un peu à part, ce sont les juridictions financières. Il y a un ordre financier que sont la cour des comptes et les cours régionales des comptes. Eux, ils ont un pouvoir qui est très particulier, qui jugent les politiques publiques, ils jugent l'État et les collectivités, mais dans leur version financière. Et puis, il fait beaucoup d'avis, il fait beaucoup d'inspections. Il a aussi un pouvoir de sanction, hein, on l'a vu encore récemment. Mais lui, il est vraiment sur le plan financier, je passe très rapidement dessus. Maintenant, revenons à cette justice judiciaire. Je vous ai dressé un grand portrait. Qu'est-ce que juge la justice judiciaire ? La justice judiciaire, à 60% de son temps, elle juge des affaires civiles. Les affaires civiles, c'est... On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour une affaire civile. On juge uniquement le conflit qu'il y a entre deux ou plusieurs individus, personne physique ou personne morale. Vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin, et bien vous allez voir un juge qui va trancher ce litige avec des règles de droit. Donc là-dedans, c'est extrêmement vaste, hein, c'est 60% de l'activité d'un tribunal, c'est très très vaste. Donc vous avez les litiges de droit commun, hein, vous engueulez avec votre voisin parce que les poules font trop de bruit le matin, vous engueulez avec votre voisin parce que vous avez un pommier qui pousse, les racines sont chez vous, mais les branches c'est de l'autre côté, et votre voisin il vous pique toutes les pommes. Et vous dites, bah oui, mais c'est dégueulasse, les racines elles sont chez moi. Et l'autre il dit, bah oui, les racines sont chez vous, mais les fruits sont chez moi, donc j'ai le droit de prendre les fruits. Et bien comment est-ce qu'on fait ? On est pas d'accord, plutôt que de se taper dessus et de se tuer, eh ben on va aller voir un juge qui va trancher ce litige selon des règles de droit. Ne me demandez pas la solution parce que je l'ignore. Vous avez un litige avec un artisan parce qu'il vous a refait votre salle de bain, mais il vous l'a complètement salopé, et que c'est ni fait ni à faire. Et lui, il vous réclame la fin du paiement du solde de la facture, et vous refusez en disant « mais vous avez fait n'importe quoi, c'est Beyrouth chez moi ». Eh ben plutôt que vous tapez dessus, vous allez voir un juge, et le juge va pouvoir trancher en disant Soit, bah non, c'est vous qui êtes chichiteux et vous devez payer la facture. Soit, bah non, en effet, il y a des désordres, donc on va faire une réfaction de facture, on va faire tout un tas de choses. Vous avez du droit bancaire, vous avez, c'est quasiment infini le droit civil, hein, c'est le droit des sociétés, vous avez le droit de la responsabilité, vous avez un accident de voiture par exemple, vous êtes blessé, l'assureur ne veut pas vous rembourser, ben vous allez voir un juge pour fixer le préjudice, ou alors l'assurance qui est très contente que vous payez vos primes d'assurance. Par contre, le jour où il faut vous indemniser, là, ils rechignent un peu et puis ils font des offres très basses. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir un juge et le juge va déterminer quel est le montant juste de cette indemnisation. Vous voyez, c'est très 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 vaste. Vous avez aussi d'autres choses dont on parle souvent, qui sont très importantes et qui prennent, dans ces 60%, qui prennent une bonne partie de notre temps, ce sont les affaires familiales. C'est pareil, vous êtes toujours un litige entre deux individus, les parents, qui n'arrivent pas à s'entendre, soit pour le divorce, soit pour la garde des enfants. On va voir un juge aux affaires familiales qui vient trancher ça. Ah, vous avez les baux ruraux, le tribunal des baux ruraux, vous avez le pôle social, vous avez l'assistance éducative, ça c'est le juge des enfants, hein, vous avez un enfant. Alors là, vous n'avez pas de litige entre deux personnes, mais parce que le juge judiciaire en matière civile, il fait soit du litige entre deux personnes, soit il fait de la protection des personnes. Donc là, il va protéger un enfant. Un enfant qui est chez lui, qui a son père et sa mère, qui ne sont pas forcément séparés, ou qui peuvent être séparés, enfin bref, mais un enfant qui est en danger chez lui, eh ben, le juge des enfants peut très bien aller demander à ce que l'aide sociale à l'enfance aille mettre un peu son nez dans la famille pour faire ce qu'on appelle une mesure d'assistance en milieu ouvert pour aider la famille à ce que l'enfant ne soit plus en danger au domicile. Parce que ça peut être une séparation conjugale qui se passe mal, hein. Il ne s'agit pas de faute, hein. Il s'agit de voir ce qui se passe mal dans la famille, pourquoi l'enfant va mal et d'essayer de régler les choses. Et puis si vraiment l'enfant il va trop mal dans la famille, le juge des enfants il peut faire du placement, un placement d'enfant. Ça, encore une fois, ce sont des affaires civiles de protection. On a la même chose en juge des tutelles. Vous avez vos parents qui vont mal, la santé décline, la santé mentale surtout décline. C'est pas joyeux, c'est pas heureux, mais parfois, pour protéger votre parent qui est âgé ou protéger votre enfant qui a un problème psychique, eh ben, on va le protéger et on va demander à un juge de le placer sous tutelle ou sous curatelle. Vous voyez bien que là, qu'il n'est pas question de faute, il n'est pas question de prison, il n'est pas question de droit pénal, il n'est pas question de délit, il est juste question de protection. Vous avez également la matière pénale, à peu près 40% de l'activité d'un tribunal judiciaire. L'activité pénale, c'est celle qu'on entend le plus dans les journaux, c'est celle qui fait le plus de bruit, parce que il y a des infractions, on en parle dans les journaux, etc. Et dans la matière pénale, on va retrouver trois types de jugements. Le jugement des contraventions, qui est jugé par le tribunal de police, le jugement des délits, qui est jugé par le tribunal correctionnel, et le jugement des crimes, qui est jugé par la cour d'assises. Retenez que le jugement des délits, c'est tout ce qui est puni d'une peine d'emprisonnement entre 1 mois d'emprisonnement et 10 ans d'emprisonnement. Si c'est ça qui est encouru, hein, si le code pénal dit qu'on encourt cette peine-là, c'est un délit et c'est jugé par le tribunal correctionnel. Si c'est au-delà de 10 ans, c'est un crime, on appelle ça un crime du coup, et c'est jugé par une cour d'assises. Dans une cour d'assises, vous avez 3 juges professionnels, 6 jurés populaires. En première instance. Donc, tirés sur les listes électorales, et ils viennent, ils ont la même voix que les juges professionnels, donc 6 et 3, ça fait 9, il y a 9 voix, et on prend les décisions à la majorité, personne n'a une voix prépondérante par rapport à l'autre, même le président d'audience n'a pas une voix prépondérante à l'autre. Et là, on dit que c'est le peuple souverain qui va juger directement les infractions les plus graves, que sont les crimes, parce que là, on peut aller de 10 ans de réclusion criminelle à la perpétuité. Et tout ce qui n'est pas puni d'une peine d'emprisonnement, ce sont des contraventions. Donc c'est puni d'une peine d'amende ou d'une peine de stage ou différentes méthodes de peine. Vous avez également, parce que là je vous ai parlé du tribunal judiciaire, qui est le tribunal principal, le tribunal de droit commun en matière de justice judiciaire. Vous avez d'autres juridictions dont on entend également parler, qui font partie de la justice judiciaire, mais qui sont des juridictions à part que le tribunal judiciaire. Et on le voit dans 2 domaines. Un pour les affaires commerciales entre commerçants, c'est le tribunal de commerce qui va juger les relations entre commerçants, ou qui va également juger quand une entreprise va mal, va faire tout ce qu'on appelle les procédures collectives, redressement, liquidation judiciaire, pour protéger les entreprises et protéger les créanciers et éviter la liquidation de l'entreprise. Et ben on va voir le tribunal de commerce. Et puis, si vous êtes salarié, si vous n'êtes pas à votre compte, vous pouvez avoir un employeur et vous pouvez avoir un conflit avec votre employeur. Ou vous êtes employeur, vous avez un conflit avec votre salarié. Et dans ce cas-là, il y a une juridiction APA, qui est une juridiction civile de l'ordre judiciaire, qu'on appelle le Conseil de Prud'homme. C'est une juridiction paritaire, puisque la juridiction paritaire, ça veut dire que vous avez moitié de représentants des employeurs et moitié de représentants des salariés. Alors, très rapidement maintenant sur l'organisation territoriale. En France, il y a 164 tribunaux judiciaires et 125 tribunaux de proximité. Tribunaux de proximité, c'était une émanation du tribunal judiciaire pour les petits litiges, où les règles de procédure sont un peu allégées. Les tribunaux judiciaires, il y en a au moins un par département. Mais il peut y en avoir plusieurs. Mais par contre, il y en a au moins un par département. Ici, dans les Alpes-de-Provence, il n'y en a qu'un seul. C'est le tribunal de Digne-les-Bains. Donc les tribunaux judiciaires, c'est des juges professionnels, à l'exception des assises, j'en ai déjà parlé. Les assises, on appelle ça une juridiction à échevinage. Échevinage, c'est un mélange entre des juges professionnels et des juges non professionnels. La cour d'assises est une juridiction à échevinage. Il y a en France 211 conseils de prud'hommes. C'est une juridiction donc, qui est paritaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec égalité entre les employeurs et les salariés. Et pour la présidence du tribunal, c'est une présidence tournante. Une fois, c'est un conseiller salarié, une fois c'est un conseiller employeur. Et vous avez 134 tribunaux de commerce. C'est une juridiction qu'on appelle consulaire. Ils sont consulaires parce que ce sont des juges qui sont élus par leur pair. Ce ne sont pas des juges professionnels. Tous ces juges-là, en première instance, justice civile, justice pénale, les tribunaux judiciaires, les CPH et les tribunaux de commerce, ils jugent en fait et en droit. Donc, on prend les faits, on prend le droit, on voit quelles règles de droit s'appliquent et on donne une solution. Retenez bien ça, ils jugent en fait et en droit. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, sauf exception pour les tout petits litiges, vous avez le droit de faire appel de cette décision. Donc on va juger une deuxième fois votre affaire. Et ça va aller où ? Ça va aller devant une cour d'appel. Il y en a 36 en France. Ici, elle est à Aix-en-Provence. Et là, c'est uniquement des juges professionnels. Et ces juges professionnels, cette cour d'appel, elle va juger les appels des tribunaux judiciaires, des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce. Là, on ne parle plus d'échevinage, de juridiction paritaire, etc. Là, ce sont que des juges professionnels, pour tout le monde. Cette cour d'appel, elle va juger également en fait et en droit. Donc elle reprend l'intégralité de votre dossier et elle va le juger une deuxième fois. En première instance, c'est souvent, la norme voudrait que ce soit trois juges qui jugent, mais en pratique, c'est, dans la plupart des affaires, c'est un seul juge qui va juger. En cour d'appel, c'est l'inverse. Le principe, c'est que vous avez trois juges qui vont juger. Pour donner quand même une assise juridique, en plus c'est des juges qui ont un peu plus d'expérience, souvent, qui sont un peu plus âgés, qui ont une appétence toute particulière pour le droit, qui sont un peu plus spécialisés aussi, et donc qui vont vraiment regarder, si vous avez déjà vu des arrêts de cour d'appel, c'est souvent très fouillé, c'est toujours beaucoup de choses qui sont écrites, ils fouillent beaucoup le droit. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, vous avez le droit de faire encore un recours en France. Alors on dit que la justice est longue, mais vous avez vu, première instance, appel, et vous avez le droit d'avoir un troisième degré de juridiction, qui est très spécifique, qu'on appelle la cour de cassation. Il y en a une seule en France. Elle est à Paris et elle juge donc toutes les affaires des cours d'appel, des 36 cours d'appel. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle juge 8 tribunaux, les 2 des Alpes-Maritimes, les 2 du Var, les 3 des Bouches-du-Rhône et celle des Alpes-de-Provence, plus tous les CPH, plus les tribunaux de commerce. La cour de cassation, elle est unique en France. Et par contre, attention, la cour de cassation, elle ne juge pas en droit. Elle ne juge pas en fait. Elle ne reprend pas votre affaire au point de vue des faits. Elle va juste regarder si les juges d'appel ont appliqué la bonne règle de droit. Si les juges ont appliqué la bonne règle de droit, elle rejette le pourvoi. Et donc la décision finale, ça va être la juridiction d'appel. C'est la décision d'appel. Par contre, si elle dit que, la cour d'appel, elle n'a pas jugé le droit. La règle de droit, elle ne dit pas tout à fait ça. Ça ne s'applique pas comme ça. Dans ce cas-là, elle ne va pas rejuger elle-même. Elle va casser l'arrêt et elle va, la cassation, c'est pour ça qu'on appelle la cour de cassation, et elle va renvoyer l'affaire à une autre cour d'appel, ou à la même cour d'appel, mais avec une autre composition, pour rejuger l'affaire, toujours en fait, mais cette fois-ci avec la bonne règle de droit. Ça, c'est l'organisation. Alors maintenant, on va revenir aux Alpes de Haute-Provence. Comment est-ce qu'on juge ici dans les Alpes de Haute-Provence ? Comment est-ce qu'on prend en compte les gens, la particularité des bases alpins ? Alors, d'abord, qui est-ce qui travaille dans un tribunal et quels sont leurs rôles ? À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par les magistrats. Les magistrats, ils sont divisés en deux. Le corps des magistrats, divisé en deux. Vous avez d'un côté les juges du siège, les magistrats du siège, qu'on appelle aussi magistrature assise, parce qu'on est assis pour juger. Et ce sont les magistrats qui vont juger les affaires, qui vont trancher le litige. À compter de septembre, on sera 12 magistrats dans le tribunal de Digne. 11 à Digne et 1 au tribunal de proximité de Manosque. Si on devait être le nombre de magistrats moyen de l'Europe, si on regarde tous les pays d'Europe, voir leur nombre de magistrats, est-ce que vous savez, par rapport au nombre d'habitants dans le département, combien est-ce qu'on devrait être ? 35. On est 12.
Ça nous coûterait trop cher.
Voilà, ça coûterait un peu cher. Voilà. Pour la moyenne, hein ? Je ne parle pas des gens les plus hauts, je parle de la moyenne, on devrait être 35. Alors, c'était quand même des chiffres à prendre avec précaution, parce qu'on ne compte pas les juges, on ne compte pas les contentieux de la même manière selon les pays. Donc, 35, en vrai, on n'aurait pas besoin d'être 35. On devrait être plutôt, je dirais, 17-18, je pense. Pour pouvoir bien fonctionner à peu près 17-18. Sachez que le nombre de juges dans le département, donc on est 12 à compter de septembre, on est 11 actuellement, 12 à compter de septembre. Si on devait atteindre la moyenne nationale, qui est de 11 pour 100 000 habitants, on devrait être 17 juges ici, pour atteindre la moyenne nationale. Là aussi, il faut compter un peu différemment, et c'est pas complètement vrai, parce que les moyennes, on peut dire tout ce qu'on veut aux chiffres, c'est pas complètement vrai. Parce qu'en fait, dans la moyenne nationale, vous avez aussi des juridictions hyper grosses comme Paris, Marseille, qui ont des contentieux très spécialisés. Vous avez du terrorisme, etc. Donc en fait, il y a bien plus de juges, parce que, et puis c'est bien plus complexe, etc. Donc en vrai, on est relativement proche de la moyenne pratique nationale. On est un petit peu en dessous. On pourrait être plutôt 13-14. On serait déjà plus à la moyenne nationale. Alors nous, les juges, ici, parce que je fais partie des juges, moi, tout président que je suis d'abord un juge. Je suis d'abord un magistrat du siège et j'ai en charge une fonction juridictionnelle, donc je juge de tous les jours. Et en plus, j'ai des charges d'organisation, de management, etc. et de représentation de la juridiction. Donc, nous, juges du siège, c'est nous qui décidons. On juge en droit. On ne juge pas en équité. Je vais vous donner un exemple. Surtout en matière civile. Voilà, le jugement en équité, c'est le jugement de Salomon. Salomon, vous savez, c'est dans la Bible, c'était deux femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant, qui disaient « mais c'est mon enfant », et Salomon a dit « eh ben très bien, on va couper l'enfant en deux. Hein, vous réclamez toutes. On coupe l'enfant en deux, et puis vous avez chacun une moitié. » Et là, il y a une des femmes qui dit « non, donnez-le à l'autre, laissez-le en vie, mais donnez-le à l'autre. » Et le roi Salomon a dit « bah, je sais que du coup, vous êtes la mère, parce que vous avez préféré la vie de votre enfant plutôt qu'il soit coupé en deux, quitte à ne pas l'avoir, donc il a redonné la... » Ce qu'on appelle le jugement de Salomon, c'est le jugement en équité, ça veut dire qu'on s'affranchit des règles de droit et on fait un petit peu comme on... au feeling, comme on le sent, etc. C'est pas complètement bête le jugement en équité, attention, hein, il peut y avoir des belles choses qui peuvent être faites en équité. Mais nous, on n'a pas le droit de juger en équité. On est des juges. On est soumis à un livre qu'on appelle le petit livre rouge, qui n'est pas celui de Mao, qui est le code civil ou le code pénal. Parce qu'il est rouge, la couverture est rouge. Voilà, et il est gros, il est très gros. Et parfois, on est soumis à des litiges avec des règles de preuve et on aimerait bien juger en équité. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a une règle de droit qui s'applique. Moi, je vais vous donner un exemple. J'avais un couple de personnes assez âgées qui s'étaient fait avoir par leur gendre, je crois que c'était leur gendre, qui il leur avait prêté de l'argent, il avait fait une reconnaissance de dette n'importe comment, écrite sur un bout de papier, à peine signée, etc. Et puis, le gendre ne les avait forcément jamais remboursé. Ils étaient venus me voir, les pauvres, et puis ils m'avaient dit ben, « Nous, on demande à être remboursés, on a fait une reconnaissance de dette. » Et puis ils m'ont donné ça, cette espèce de reconnaissance de dette, sauf que cette reconnaissance de dette, elle respectait absolument pas les formes, il n'y avait rien qui était marqué, on comprenait à peine l'identité du gars. Je me doutais bien que c'était le gendre qui l'avait fait, je m'en doutais, mais il n'y avait pas son nom dessus. Il y avait un bout de signature, mais qui était complètement illisible. Et bien sûr, le gendre s'est bien abstenu de comparaître devant moi. J'ai eu de la peine pour ces pauvres gens, parce que je savais qu'au fond, c'était vrai. Je savais. Sauf que juridiquement, j'avais pas les moyens de prononcer la condamnation à rembourser cette somme. Donc bah, je les ai déboutés. Voilà. Je m'en veux un peu. Mais sauf que mon rôle, mon office, c'est pas de faire comme moi je sens. Parce que qui je suis moi ? Moi je suis rien. Moi Timothée de Montgolfier, je suis rien. Moi j'ai un pouvoir qui m'est donné, un pouvoir qui est hyper important. J'ai un pouvoir performatif. Ça veut dire que ce que je dis, ce que je prononce avec mes lèvres, est vérité. Vérité judiciaire. Mais je suis capable, avec ma bouche, de changer la réalité des choses. Quand je dis à deux personnes « vous êtes divorcés », ça change la réalité. Ils passent de mariés à divorcés. Vous vous rendez compte du pouvoir que j'ai de changer la réalité par rapport à juste parce que je dis des choses ? Donc, ce qu'on attend de moi, c'est pas que Timothée de Montgolfier change la réalité, ils disent les choses, on s'en fout de ça. Il n'y a pas d'intérêt. Aussi intelligent que je puisse être, aussi compatissant que je puisse être, c'est pas ça qu'on veut de moi. On veut de moi, et le pouvoir m'a donné, le peuple souverain m'a confié ce pouvoir judiciaire juridictionnel pour que je le rende sur des textes qui ont été votés par quelqu'un d'autre, par le peuple souverain, par ses représentants, qui est le législateur. Donc je ne juge pas en équité, je juge en droit, même si parfois, ça fait mal. Parfois, il y a des règles de droit qu'on ne comprend pas. Parfois, il y a des règles de procédure qui jouent en faveur des criminels. Voilà. Et qui sont des malins, et qui ont des avocats qui sont bons, et qui vont faire en sorte que la personne doit être libérée. Je sais bien qu'elle est coupable, la personne. Je le sais. J'aimerais bien qu'elle soit en prison. Mais la règle de droit n'a pas été respectée. Je suis dans l'obligation de la mettre dehors. Même pour un problème infime. Et si je suis pas content, eh ben moi je ne peux que me taire, devoir de réserve. Par contre, si vous vous êtes pas content, vous avez le droit d'écrire à votre député en disant il faut changer la loi. Lorsque la loi sera changée et qu'on arrêtera de mettre des règles impossibles à suivre parce que beaucoup trop compliquées, eh ben j'aurai pas besoin de sortir les gens. Et je le ferai comme ça. Je suis soumis à la loi. Voilà. Je ne peux pas l'inventer. Après, la loi, elle est vaste. Alors, on dit, oui, mais les juges, alors, ils exhibent de telle et telle chose, etc. Oui, parce qu'on est malin. On a un ordre juridique qui est quand même très vaste. Il y a la loi, mais il n'y a pas que la loi. En dessous de la loi, vous avez le décret. En dessous du décret, vous avez le règlement. En dessous du règlement, vous avez la circulaire. Mais au-dessus de la loi, vous avez plein de choses. Vous avez la Constitution. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un article de la Constitution, notamment tout ce qu'on met au début, qu'on évite de trop lire, etc., parce que ça embête, hein, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui fait partie de la Constitution, les principes fondamentaux nécessaires à notre temps, toutes ces choses-là, eh ben, je vais pouvoir m'en inspirer, je vais pouvoir dire, ok, la loi, elle dit ça. Ah, mais la Constitution, elle dit ça. Et la Constitution, ça a une valeur supérieure. Alors, je vais appliquer la Constitution. Jusque-là, ça va. Ça commence à se compliquer avec le droit européen et les conventions internationales. Bah oui, alors en effet, il y a telle liberté qui est dit, on doit faire ça. Mais oui, mais quand même, vous avez une Convention européenne des droits de l'homme qui a été signée et ratifiée par la France, qui est dans notre ordre juridique, et bien c'est pas pour les chiens. Il faut l'appliquer, cette Convention européenne des droits de l'homme. Donc parfois, je peux prendre un texte européen et de dire, ce texte européen, de par la loi, même la Constitution, il est supérieur à la Constitution. Il y a des hommes et des femmes politiques qui voudraient changer ça. Dire que ça devrait être inférieur à la Constitution, que la Constitution devrait être supérieure. Moi, juge, j'ai pas de problème avec ça. Mais sauf que c'est pas la loi actuellement, c'est pas dans la Constitution. C'est pas dans notre ordre juridique. Le jour où ça changera, moi j'appliquerai ce qu'on me dit d'appliquer, ce qu'on dit la loi. Donc parfois, il y a une règle qui est supérieure, qui est différente et qui me permet de ne pas appliquer la loi qui est interne. Donc, on prend tout ça pour juger. Il y a une autre source de droit, j'en parle très rapidement, mais parce qu'une source qui est indirecte, on en parle beaucoup, donc peut-être que vous en entendez parler, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, c'est déjà l'ensemble des décisions qui sont rendues par l'ensemble des tribunaux. Ça fait partie de la jurisprudence, c'est toutes les décisions de justice. La jurisprudence, ça peut aussi avoir un autre sens, c'est les décisions qui sont rendues par des juridictions supérieures à nous. Alors on n'est pas tenu par cette jurisprudence, on est libre de résister. Quand on est juge, je suis libre de dire, la Cour de cassation, rien à faire. Sa décision, rien à faire. Mais j'ai pas intérêt à dire ça. Parce que eux, c'est des gens qui sont supérieurs, qui ont décidé une règle de droit. Si je dis, la règle de droit, j'ai pas envie de l'appliquer, vous voyez bien que j'ai le droit de le faire. Mais j'ai pas intérêt à le faire, parce que déjà les parties vont dire, la cour d'accusation, elle a dit autre chose, donc je vais faire appel. Moi, j'ai pas intérêt à ce qu'on me fasse appel. Et après, la cour d'appel, elle me rase dans ses décisions, en disant, le juge n'a rien compris, c'est un bonnet d'âne, hop, ça fait pas plaisir quand on se fait raser par une juridiction supérieure. S'il a rien compris au droit, ça fait pas plaisir. Donc j'ai plutôt tendance à me conformer à la jurisprudence. Mais parfois, c'est vrai que dans certains cas, j'ai déjà fait de la résistance. Pourquoi ? Parce que les faits n'étaient pas exactement pareils que dans, l'autre décision. Il y avait un petit truc qui était un petit peu différent. Moi, j'ai estimé que c'était pas tout à fait la même chose. Parfois, parce que j'avais estimé qu'il y avait une jurisprudence ou un texte de loi supérieur, notamment du Conseil de l'Europe, enfin de la Cour européenne des droits de l'homme, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est venue un peu remettre les choses à leur place, et donc je suis décidé de faire différemment. Donc jurisprudence, oui, source de droit, parce qu'on la lit, on voit ce que les autres font, on se dit « Ah putain, c'est pas comme ça hein, ». Quand on lit les décisions des autres, « Ah oui, en effet, allez, j'ai pas vu ça ». Quand j'ai analysé la règle de droit, j'avais pas vu complètement les choses sous cet angle-là. Et maintenant qu'on lit ça, et du coup, je vais changer ma jurisprudence. Et c'est ça qu'on dit quand on va changer sa jurisprudence. Moi, pendant des années, j'ai eu l'habitude pour tel... Vous savez, vous avez des séries, vous avez des choses, c'est toujours la même chose. Hein. Le paiement des charges de copropriété, c'est toujours la même chose. On applique toujours la même chose. Et moi, j'ai ma décision, j'ai ma trame, et je remplis les trucs, etc. Et voilà. Puis, à un moment, il y a une décision, soit de la cour d'appel, soit de la cour de cassation, soit de je ne sais pas trop qui va me dire « Ah oui, je n'avais pas vu cet angle-là. » Et bien, je vais faire un revirement de jurisprudence. Bah maintenant, ma jurisprudence qui était toujours la même, eh ben, je vais la changer, je vais faire autre chose. Et c'est ça, il ne faut pas voir ça comme étant oui, c'est de l'arbitraire, oui, c'est n'importe quoi. Non, c'est là où on va voir la richesse du droit et de voir comment, en fait, aux situations individuelles, on doit donner une réponse qui est donnée par un juge. Et un juge, ce n'est pas une machine. Hein. On a nos forces, on a nos faiblesses, on a des choses qu'on comprend, des choses qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des domaines du droit, je n'y comprends rien. Rien! Moi, les partages successoraux, j'y comprends rien. Et je leur dis aux parties, quand ils sont devant moi, je dis, écoutez, je vais juger votre affaire, je vous promets que je vais faire mon maximum, mais j'y comprends rien. Je ne comprends pas les règles, c'est trop compliqué pour moi. Les calculs de soulde, de récompense, de machin, du profit subsistant, j'y comprends rien, rien. Alors je leur dis toujours, essayez de vous mettre d'accord, de toute façon... Vous risquez rien à vous mettre d'accord, ce soir avec moi ça va être encore pire. Souvent ça marche. Mais il y a d'autres juges qui peuvent adorer ça et comprendre tout à fait, etc. Donc moi je me fais beaucoup aider par notamment j'ai une équipe autour de moi et il y en a qui aiment bien ça, donc je leur file le truc. Donc vous me préparez ça, je regarde pour voir s'ils disent pas trop de bêtises, de toute façon j'arrive pas à comprendre, donc hop, et je le rends. Et c'est ça, le but d'un juge, c'est pas de rendre la décision parfaite, c'est de juger. C'est de mettre fin au litige. Mon rôle à moi, j'étais longtemps juge aux affaires familiales. Et j'avais des gens qui arrivaient, un papa, une maman, trois enfants, ils se divorcent. Le père, il tient tout à fait la route. Les enfants aiment bien aller chez leur père, il n'y a pas de problème, etc. Ils adorent aller chez leur mère, ça se passe bien, etc. Par contre, les deux, ils ne peuvent pas se piffrer. Parce que, soi-disant, monsieur a trompé madame. Ou madame a trompé monsieur. Mais ils ne peuvent pas se piffrer. Mais c'était mon parent. Et puis, madame ou monsieur va s'installer à l'autre bout de la France. Et chacun me demande la garde de l'enfant. Bah, garde partagée, c'est pas possible. Des enfants 8, 5 et 3 ans, ils peuvent pas faire une semaine à Digne-les-Bains et une semaine à Nancy. C'est pas possible. Bon. Alors, il faut bien que je les donne quelqu'un. Je peux pas les partager, ces enfants. Hein? Qu'est-ce que je fais quand tout va bien? Quand les enfants, quand je les interroge, ils me disent « Oh, bah, j'aime bien papa, bah, j'aime bien maman. Et tu voudrais aller où ?»« Bah, je m'en fiche. » Voilà. Bon, bah, je fais quoi, une expertise? L'expertise, elle me dit, bah non, mais les deux parents, ils vont très bien, psychiquement, il n'y a pas de souci. Il faut que je prenne une décision. Mon rôle à moi, c'est de trancher le litige. Ils ne peuvent pas décider seuls, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, il faut bien que quelqu'un prenne la décision à leur place. Moi, ma décision ne va pas être parfaite, donc je vais décider. Alors, la loi, elle me donne des grands axes de décision. Donc, elle me dit, globalement, elle me dit, les enfants ne doivent pas être séparés entre eux. La fratrie ne peut pas être séparée. Donc, déjà, il ne faut pas que je fasse une séparation. Ça m'aide. Mais parfois, je dois faire une séparation, parce que parfois, c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit séparé. La loi, elle me dit, il ne faut pas donner à un parent violent. Bon, bah, c'est bien gentil, ok, mais si aucun des deux n'est violent. Donc ça, je peux... Il faut préférer les accords. Bah oui, mais ils ne sont pas d'accord. Il faut... je ne sais pas quoi. Elle me donne un nombre de choses. Mais à la fin, je suis seul devant ma décision. Donc ma décision, elle ne va pas être parfaite. Elle ne va pas être parfaite. Mais je siffle à la fin de la récréation. Je dis, voilà, maintenant c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose, mais faites appel. Peut-être qu'un autre juge va prendre une autre décision, qui sera tout aussi fondée en droit et en fait, mais qu'ils auront une autre appréciation de la situation. Donc voilà, c'est pas parole d'évangile. On peut se tromper. On peut se tromper au civil, on peut se tromper au pénal. Au pénal, vous avez quelqu'un qui est devant vous, alors vous pouvez le condamner, hein, y a pas de souci, vous le condamnez pour des faits qu'il va commettre. Mais sur la peine, vous devez choisir une peine qui soit personnalisée. Et la peine, elle doit avoir plusieurs objectifs. Elle doit avoir comme objectif la sanction du gars ou de la fille, ou un gars. Elle doit avoir pour objet sa réinsertion. Elle doit avoir pour objet de prévenir la récidive et elle doit avoir pour objet de conserver les intérêts de la victime. Une fois qu'on vous a dit tout ça, bah, il faut bien choisir quelque chose. Alors soit c'est un grand violent, hop, on l'envoie en prison, soit qu'il ne va pas aller en prison pour la fin de sa vie. En tout cas pour un délit, pour un crime peut-être, mais pas pour un délit. On sait qu'il va ressortir à un moment donné. Donc il faut qu'on prévoie des choses quand même pour conserver tous ces intérêts-là. Puis parfois, bah, l'avocat, il peut être convaincant, la personne, elle peut être convaincante. On peut croire en la personne qui dit, mais je vous jure, là, c'est, j'ai compris, je me soigne, etc. Et donc vous allez donner, vous allez trancher votre litige. Hein, vous allez dire une décision parce qu'il faut que vous le fassiez. Vous êtes, on peut aller en prison si on ne tranche pas un litige alors qu'on nous a demandé de le faire. Hein, c'est un délit. C'est un délit. Oui. Si on ne le fait pas, on peut aller en prison. Donc on doit trancher, on doit prendre une décision. Et bien on prend une décision, la meilleure qu'on puisse ou la moins mauvaise qu'on puisse. Et ensuite c'est comme ça, c'est donné à des êtres humains et donc on est des êtres humains, on est par essence faillibles. Alors, pour les juges qui sont ici, alors, actuellement, il y a 10 femmes et 2 hommes. Vous voyez que la justice en France, la justice est extrêmement féminine. Alors, pourquoi? C'est parce que toutes les professions intellectuelles supérieures, ce sont les femmes. Les médecins, les avocats, toutes les professions intellectuelles supérieures, dès qu'on donne, on permet aux femmes de faire des études, c'est pas si ancien que ça, enfin, c'est récent quoi, et ben on voit qu'en fait elles réussissent vachement bien, vachement mieux que les hommes, et que du coup, de tous les métiers comme ça, ce sont des femmes. Et on est très heureux. Sauf que d'une justice purement masculine, qui n'était pas bonne, parce que purement masculine, on en vient à une justice purement féminine, qui n'est pas forcément bonne non plus. Il faut une certaine égalité. Mais en fait, si vous regardez la sociologie, ou le genre, en tout cas, dans la magistrature, il est le reflet des gens qui entrent en première année de droit. En première année de droit, vous avez 80% de femmes et 20% d'hommes. Et au final, bah, vous avez des promos de juges à 80% de femmes et 20% d'hommes. Voilà, c'est comme ça. Ici, dans les Alpes-de-Haute-Provence, nous avons des juges qui sont plutôt jeunes. Quasiment tous, c'est leur premier ou leur deuxième poste. Pourquoi ? C'est triste à dire parce que c'est le plus beau département de France, mais c'est loin, c'est loin, c'est loin, il n'y a pas beaucoup de transport, c'est pas très relié, etc. Et quand vous sortez de l'école de la magistrature, vous ne choisissez pas votre premier poste. Bah, vous avez une liste, et donc quand on vous dit bah, vous irez à Digne-les-Bains, bah, vous allez à Digne-les-Bains. Voilà. Et donc, on a beaucoup de jeunes qui sont sortis d'école qui viennent ici, parce que c'est leur premier poste, parce qu'il n'y a personne d'autre qui veulent venir s'installer ici. Moi, j'ai choisi de venir ici. C'était mon premier poste de président, et j'ai choisi de venir ici. Pour des raisons familiales, mais j'ai choisi quand même de venir ici. Moyenne d'âge, plutôt jeune, donc 37 ans, ici. Dans les juges, vous avez des juges qui sont non spécialisés, qui font un peu de tout, hein, du correctionnel, etc. Puis vous avez des juges qui sont spécialisés. Le législateur a décidé de spécialiser certains juges pour des choses qui sont un peu complexes, qui ont besoin d'avoir un juge qui soit vraiment attaché. Le juge d'instruction, le juge des enfants, juge d'application des peines, juge de la liberté des détentions, juge des contentieux de la protection. Voilà. Ça, c'est les magistrats du siège. Je vais finir sur les magistrats du siège. Je vous ai dit la prise de décision. Donc, je vous ai dit le droit, bien sûr, mais c'est une construction. Une construction qui se fait à partir de preuves. Hein, vous ne décidez pas comme ça de prendre une décision. Vous avez la loi, mais vous avez des faits. Les parties, en matière civile, le procès, c'est la chose des parties. Donc, c'est les parties qui vont vous apporter les documents, qui sont les maîtres du temps, en plus. Tant qu'ils ne sont pas décidés à ce que ce soit jugé, on ne peut pas le juger. Hein, donc ça peut être très 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 long. Une affaire, ça peut prendre jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans. J'ai des affaires qui datent encore de 2015 ici. Les parties disent non, on n'est pas encore prêt à juger l'affaire, il y a encore des choses à faire, etc. Mais c'est pas notre faute, c'est la faute des juges, des avocats, qui sont pas prêts, enfin des parties en tout cas. Et donc on va juger par rapport aux preuves qu'ils vont nous donner, et donc on va, nous, faire un raisonnement juridique pour dire la règle de droit, c'est ça, voilà. Vous, ce que vous m'apportez comme preuve, c'est ça. Donc moi, avec ces éléments, je vais en déduire une conclusion et ça va être la solution. Très souvent, je rédige un jugement, je lis le truc des demandes des uns et des autres et je dis « Ah oui, ça c'est un tel qui a raison, c'est sûr. Ouais, ouais. Je vais partir comme ça, c'est un tel qui a raison. » Et puis je commence à lire le truc. Voilà, ça me va pas bien. Ça, j'arrive pas à motiver. Je voulais partir dans cette motivation-là, mais ça bloque. Et en lisant, en relisant le droit, en lisant la jurisprudence, en lisant tout ça, en lisant les preuves, eh ben je me rends compte qu'en fait, non. Mon impression est différente et en fait, je vais donner raison à l'autre. Et quand je vais rédiger, je vais dire, ah oui, là, ça coule de source. Mon raisonnement, il est illogique. Donc, je pars toujours, moi, je ne pars pas avec une impression d'audience en disant, c'est un tel qui a raison et ensuite, je rédige. Non, j'y vais comme ça. J'ai toujours une impression, forcément. Et puis c'est en rédigeant que je vois si ça bloque ou si ça bloque pas. Et que j'arrive à dérouler un raisonnement juridique. Et si mon raisonnement juridique, j'arrive à le dérouler, ben j'arrive à une conclusion. Et c'est ça qui va donner la solution. En pénal, c'est un peu différent parce que nous avons un grand principe. Donc bien sûr, les preuves, il n'y a pas de difficulté. Mais en pénal, vous avez le principe de l'intime conviction, qui est un peu différent, qu'on voit surtout en cour d'assises. Hein? C'est la dernière phrase qu'on répète aux jurés avant de partir en délibéré, c'est « Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous une intime conviction ?» Une intime conviction, attention, ça n'est pas mon impression. Une intime conviction, c'est à partir des éléments que j'ai entendus, à partir des éléments de preuve que j'ai eus, est-ce que j'arrive à avoir un raisonnement, alors là qui n'est pas forcément juridique quand on s'agit de la cour d'assises, parce que ce n'est pas des professionnels du droit, mais est-ce que j'arrive à me dire oui, au regard de tous ces éléments-là, si je déploie tout, j'arrive à une solution de culpabilité ou une solution d'innocence. C'est ça l'intime conviction. C'est quelque chose d'intelligent, l'intime conviction. C'est quelque chose de construit, l'intime conviction. Et au pénal, alors on a bien sûr les règles de droit en matière délictuelle, ça c'est sûr, mais il y a un peu moins d'intime conviction, mais ça reste quand même assez présent. Après, il y a beaucoup de choses sur les preuves, sur la procédure, etc. Vous avez mille et une manières de dire que la personne n'est pas coupable, parce que parfois, c'est juste pour un problème de procédure. Ce n'est pas du fond. On sait qu'il est coupable, mais la procédure a foiré quelque part, et donc on est obligé de relaxer. Voilà, ça c'est sûr, la méthode, comment est-ce que ici, alors c'est ici mais partout ou ailleurs, hein, mais comment est-ce qu'ici on juge comme ça, avec ces éléments-là. Vous avez dans les magistrats du parquet, ils sont quatre. Vous avez trois femmes et un homme. L'homme, c'est le procureur de la République. Il y a trois substituts. Substitutes, comme on doit dire maintenant. Le procureur, il est en charge de l'action publique. C'est un magistrat, mais ce n'est pas un magistrat du siège. Ce n'est pas la magistrature assise. On dit que c'est la magistrature debout. Un magistrat du parquet. Pourquoi ? Il y a deux explications. Un, c'est parce qu'il est debout sur le parquet. Voilà. Et avant, dans les tribunaux, ils avaient un petit enclos autour d'eux. Et ils étaient parqués. Voilà. Et donc, c'était les magistrats du parquet. Donc, il y a deux étymologies qui se... Voilà. Et eux, ce sont les représentants de l'action publique. C'est eux qui sont destinataires des plaintes des citoyens et qui sont en charge de diriger l'action publique. Donc, de dire aux policiers et gendarmes, ah, voilà, on a reçu la plainte de madame qui se plaint d'avoir été tapée par son mari. Eh bien, vous allez interpeller monsieur. Vous allez le mettre en garde à vue. Et puis les policiers, les gendarmes vont rendre compte en disant, bah voilà, on l'a interpellé, on l'a mis en garde à vue. Ah bah allez faire une perquisition chez lui. Et puis il y a ça, ah il nous a dit ça, etc. Ah bah peut-être qu'il a des armes, allez voir s'il n'a pas des armes chez la mamie ou chez le papy qui est là. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et puis il va construire son dossier. Soit il va dire, et ça arrive dans beaucoup, malheureusement beaucoup de cas, il dit, je ne peux pas poursuivre cette infraction-là. Certes, elle a été dénoncée, mais je ne peux pas la poursuivre. Pourquoi ? Un, parce qu'on n'a pas trouvé l'auteur. Quelqu'un est venu dénoncer une escroquerie, mais on ne sait pas qui c'est. Il dit, bah, j'ai été escroqué. Ok, mais par qui ? Je sais pas. Alors, il va y avoir une enquête, etc. Mais au final, malgré toutes les investigations, il n'y a pas d'auteur. Eh bien, on ne va pas renvoyer ça devant un tribunal. Le tribunal, il va dire, bah, c'est gentil, mais il n'y a pas d'auteur. On ne va pas condamner quelqu'un. Donc voilà, il n'y a pas d'auteur. Ou alors, il n'y a pas d'infraction. On voit ça très souvent, des gens qui disent, qui ont un conflit avec SFR, parce que, je ne sais pas trop quoi, la facture était trop élevée, je vais porter plainte. Bah non, on ne va pas porter plainte. On ne va pas à la gendarmerie pour dire, SFR a commis une infraction. C'est un litige qui est civil. Sauf que les gendarmes et les policiers, ils doivent prendre la plainte. Donc on envoie ça au procureur, puis le procureur, il dit, bah non, c'est pas une infraction, c'est du civil. Donc il n'y a pas d'infraction. Hein? Ou alors l'infraction, elle est insuffisamment caractérisée. On n'a pas de preuves. Le procureur dit, mais il n'y a rien là, il n'y a pas de... Il y a cette dénonciation, on a un auteur qui est potentiellement identifié, qui nie, mais j'ai rien derrière. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc je ne vais pas aller devant un juge, ça ne sert à rien, une parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc il va classer sans suite et dire, bah non, il n'y a pas lieu à jugement. Et ça, malheureusement, c'est une bonne partie des infractions partout en France. Hein, et ici, on ne fait pas exception. C'est peut-être que 70% des affaires qui sont classées sans suite. Parce que soit il n'y a pas d'infraction, soit il n'y a pas d'auteur, soit c'est insuffisamment caractérisé et on ne pourra pas arriver à une condamnation. Et puis sur ces environ 30 ou 40%, eh ben, ça vient devant le... Il va construire son dossier, il va dire, bah oui, ça tient. On a un auteur, on a une victime, on a des... Voilà, on a entendu tout le monde. Moi, je crois à la culpabilité. Et donc, il va présenter ça à un juge pour que le juge puisse juger. Et il va soutenir l'accusation. Il va dire, moi, représentant des intérêts de la société, j'estime qu'une infraction a été commise et je vais demander à des juges indépendants de les juger. Après, soit nous, on dit soit oui, soit on dit non. Mais c'est notre rôle. Très rapidement, il y a un autre type de magistrats, ce sont les magistrats à titre temporaire, mais je passe très très vite. C'est des magistrats qui ont déjà qui sont magistrats que pour quelques années et qui ont décidé de faire un petit tour dans la magistrature. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études de droit, etc., mais qui ont des compétences en matière juridique et qui viennent nous aider pour un certain temps. Alors, ils sont surtout assesseurs. Ils ne vont pas présider seuls, ils sont assesseurs avec nous. Ils ont souvent un bon regard sur la société. Et dans certaines matières, ils peuvent prendre des décisions seuls. Et c'est pour des petites matières. Voilà, ça, ce sont les juges. C'est comme ça qu'on décide de rendre la justice. Vous avez, et je finis relativement rapidement avec ça, vous avez également les personnels de greffe, les greffiers, qui sont absolument essentiels dans une juridiction. On en a 41 ici, enfin, personnel de greffe d'une manière générale. Il y a une vingtaine de greffiers, une vingtaine d'adjoints administratifs. Et ce sont les gardiens de la procédure, c'est eux qui vont mettre les dossiers en état. Ils sont là à l'audience. Vous savez qu'en matière d'audience, c'est l'oreille du tribunal. Tout ce qu'ils entendent est réputé avoir été dit, tout ce qu'ils n'entendent pas est réputé ne jamais avoir été dit. Donc vous êtes à l'audience pour une audience pénale, quelqu'un qui est poursuivi pour des vols, par exemple. Il nie les vols. Puis à un moment, il dit, bon, allez, ok, c'est moi. Ok, très bien, tout le monde est content. Mais la greffière, elle dormait. Elle n'a pas entendu. Eh bien, s'il revient sur ses déclarations après, si ce n'est pas noté, s'il n'a pas entendu, c'est réputé ne jamais avoir été dit. Je vous rassure, les greffières ici ne dorment pas. Et ensuite, je vous disais en introduction que la justice n'était jamais rendue seule. On a des partenaires qui sont essentiels dans la justice. Premier rang desquels, ce sont les avocats. Les avocats, ils viennent défendre une cause, défendre une personne, soit au civil, soit au pénal. Ils viennent défendre une cause. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec leur client. Ça veut dire qu'ils vont porter la voix de leur client. Ils vont faire en sorte que leur client puisse être entendu, et puisse être défendu, et puisse bénéficier des règles de droit, même si c'est des règles de droit protectrices. C'est leur rôle. La personne, elle ne connaît pas le droit. Même un grand criminel, il ne connaît pas le droit. Il ne connaît pas toutes les petites subtilités, etc. Mais je ne vois pas pourquoi même un criminel n'aurait pas le droit que le droit qui est censé s'appliquer à tous lui soit appliqué à lui sous prétexte qu'il est criminel. Hein? Donc il a le droit d'avoir un défenseur. Ça ne veut pas dire que l'avocat est d'accord. D'ailleurs, souvent, il ne sait pas très bien le fond de la pensée du client. Il ne faut pas croire que l'avocat dit toujours la vérité à son client. Que le client dit toujours la vérité à l'avocat. L'inverse, je ne sais pas. Je ne prononcerai pas. Mais l'avocat va porter la voix, va expliquer les choses, notamment en matière pénale. Il va pouvoir dire oui, certes, il a commis les faits. Parce que parfois, il nie pas l'avocat. Il dit oui, il a commis les faits. Hein, je ne cherche pas non plus à nier l'évidence. Mais regardez, il a commis les faits, mais ça a été commis dans telle circonstance. Et regardez, il a fait des efforts. Il va insister sur le côté bon, réadaptable des gens. Et ensuite, c'est le tribunal qui va décider. Magnifique métier que le métier d'avocat. Sans avocat, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'avocat. Hein? Absolument essentiel. Hein? Ensuite, très rapidement, les experts en matière de justice, parfois, surtout en matière de justice civile, mais aussi en matière de justice pénale, on a besoin d'experts. Parce que nous, on ne connaît pas tout. Moi, je fais du droit à la construction, par exemple. Alors, quand on me parle des solives, des machins, des trucs sous le toit, mais je n'y comprends rien. Enfin, je suis incapable de savoir quand on va me présenter les choses. J'ai besoin d'avoir un expert qui va regarder, qui va me dire la réalité technique de votre dossier, c'est ça. Et c'est comme ça, grâce à cette réalité technique, que moi, je vais pouvoir dire, cette réalité technique-là, elle va se raccrocher à telle règle de droit et je vais pouvoir la juger comme ça. En matière pénale, les experts, on les utilise beaucoup en matière informatique. Vous avez une infraction qui est commise sur Internet. Si vous n'êtes pas un spécialiste de l'informatique, on ne va pas dépiocer votre ordinateur. Enfin, il faut que ce soit dépiauté et que les choses puissent en sortir. Donc, on a besoin d'experts informatiques. On a besoin d'experts en accident. Voir un accident, qu'est-ce qui est en faute, qu'est-ce qui n'est pas en faute. On a besoin d'experts psychiatres, d'experts psychologues, d'experts balistiques. On travaille beaucoup, beaucoup avec des experts parce que nous, notre domaine d'activité, nous, juges, c'est le droit. Ce n'est pas le fait. Ce n'est pas la technique. La technique matérielle des choses, ce n'est pas l'ingénierie. Voilà, je cite les autres pour juste les citer parce que sinon ils vont me dire que je ne les ai pas cités alors que c'est des partenaires de justice. Les commissaires de justice, anciennement appelés huissiers, on est beaucoup avec eux. Délégués du procureur, service pénitentiaire d'instruction et de probation, protection judiciaire de la jeunesse, aide sociale à l'enfance, etc., etc., etc. Tous ces professionnels-là, ils vont nous aider, ils ont des compétences particulières, ils vont nous aider à prendre des bonnes décisions parce qu'ils connaissent les gens, ils connaissent leur système et ils savent comment ça fonctionne. Et nous, on n'est pas tenus par ce qu'ils disent, on est indépendants, mais n'empêche que quand un professionnel qui ne fait que ça de ses journées nous dit c'est ça, nous, ça va nous aider à prendre une décision. C'est aussi pour nous un élément de preuve. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Ou ennuyé. Parce que ça peut être un peu aride.
Merci beaucoup.